vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 18 mars 1871, et la Commune fut. Cette histoire débute le 19 juillet 1870, quand Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Très vite, les défaites se succèdent. L'empereur est capturé à Sedan le 2 septembre. La Troisième République est proclamée à Paris 2 jours plus tard. Après une résistance héroïque, le gouvernement de la Défense nationale signe l'armistice le 28 janvier 1871. Refusé par le peuple parisien, il accroît la tension entre le gouvernement officiel dirigé par Adolphe Thiers et les forces révolutionnaires qui, le 18 mars, constituent un gouvernement insurrectionnel, la Commune de Paris. Après le transfert de l'Assemblée nationale à Versailles le 10 mars, Thiers décide de récupérer les pièces d'artillerie regroupées à Montmartre. Il souhaite également occuper militairement la capitale. C'est donc par une histoire de canon que débute la Commune. En effet, la garde nationale possède 227 canons, dont 200 ont été fondus durant le siège de Paris par les troupes prussiennes grâce à des souscriptions privées. Quand les Allemands occupent partiellement la capitale durant 48 heures au début de février 1871, les Parisiens s'empressent de les mettre en lieu sûr, hors de la zone d'occupation, au sommet de la butte Montmartre. Les canons sont désormais sous la garde du peuple, organisés en fédération. Le 8 mars, les troupes régulières tentent de reprendre le parc d'artillerie détenu par la garde nationale. L'opération échoue. Le comité central de la fédération lance à l'armée gouvernementale ce manifeste révolutionnaire. Soldats, enfants du peuple, les hommes qui ont organisé la défaite, démembré la France, livré notre or, veulent échapper à la responsabilité qu'ils ont assumée en suscitant la guerre civile. Le peuple de Paris veut conserver ses armes, choisir lui-même ses chefs et les révoquer quand il n'a plus confiance en eux. Plus d'armée permanente, mais la nation tout entière armée. Le 15 mars, Thiers s'installe à Paris. Il ne peut tolérer semblable appel à la désertion. Le conflit entre les deux pouvoirs, celui des fédérés et celui du gouvernement légitime de la France, est inévitable. Au matin du 18 mars, les murs de la capitale sont couverts d'une affiche gouvernementale proclamant « Habitants de Paris, depuis quelque temps, des hommes mal intentionnés, sous prétexte de résister aux Prussiens qui ne sont plus dans nos murs, se sont constitués maîtres d'une partie de la ville. Les canons dérobés à l'État vont être rétablis dans les arsenaux et pour exécuter cet acte urgent de justice et de raison, le gouvernement compte sur votre concours. Que les bons citoyens se séparent des mauvais, qu'ils aident à la force publique au lieu de lui résister. Parisiens, vous nous approuverez de recourir à la force, car il faut à tout prix que l'ordre, condition de votre bien-être, renaisse entier, immédiat, inaltérable. Pour récupérer les précieux canons, Thiers sollicite la force armée. Les Montmartrois sont réveillés à l'aube du 18 mars par le pas cadencé des fantassins de l'infanterie de ligne. Bientôt, toute la colline est tenue par la troupe. Au centre du dispositif militaire, le général Lecomte, avec le 18e bataillon de chasseurs et le 88e bataillon de marche, parvient au sommet de la butte Montmartre. Il bouscule les fédérés de garde et pénètre dans le parc d'artillerie. Là, il attend les attelages nécessaires à l'enlèvement des pièces qui tardent près de 4 heures. Les ménagères et les filles des hôtels meublés apparaissent dans les rues. Elles s'infiltrent dans les rangs de l'armée, proposant aux soldats de boire un verre avec elles. Le tocsin se fait entendre, les unités de la garde nationale se rassemblent, place Saint-Pierre apparaît un premier groupe de fédérés accompagné de quelques soldats déserteurs. Le général Lecomte fait croiser les baïonnettes. Les gardes nationaux avancent, menaçant, brandissant leurs fusées chassepots. Le feu est ordonné. La troupe refuse de tirer sur le peuple. La foule se précipite, embrasse les soldats et les entraîne vers les comptoirs des marchands de vin qui ouvrent leurs portes. Le général Lecomte est traîné vers l'auberge du Château Rouge, un ancien bal de la rue de Clignancourt, devenu le quartier général des fédérés. Là, il signe l'évacuation du quartier. Il est bientôt rejoint par un vieux général à la grande barbe blanche, le septuagénaire Clément Thomas, qui, en juin 1848, avait commandé de charger la canaille. Au milieu de l'après-midi, les deux généraux sont exécutés. L'insurrection s'étend. Les fédérés élèvent des barricades Faubourg Saint-Antoine et à Ménilmontant. Ils occupent le palais du Luxembourg où l'infanterie de ligne fraternise avec la population parisienne et marche sur l'hôtel de ville. Au ministère des Affaires étrangères, Thiers s'affole. Il replie le gouvernement à Versailles. La commune est proclamée. Le peuple de Paris se rassemble en liesse sur le parvis de l'hôtel de ville. Il crie sa joie, chante, danse et s'embrasse. Il se réjouit d'apprendre la création de communes insurrectionnelles en particulier à Lyon, Marseille, Narbonne, Toulon et Limoges. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire. Un jour, trois livres qui a été préparé par Emmanuel et que j'aurai plaisir à vous présenter. C'est Alain Chamfort qui nous accompagne en chanson durant cette émission. Nous écoutons Clara veut la lune, un titre extrait de son album Neuf de 1993.
Clara veut m'entendre, inventer des mots tendres. Je devrais à chaque instant la surprendre. Et mademoiselle parle de se pendre, s'il faut attendre. À février, Clara, pour que les grillons cessent pas de chanter et que ces gambettes soient bronzées, toute l'année. Clara veut la lune, il m'arrive de refuser quand j'ai rangé la fusée au garage et dehors y a de l'orage.
« Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour, trois livres, avec pour commencer le bagne des Annamites, les derniers déportés politiques en Guyane. C'est signé Christelle Debeban aux éditions Actes Sud. Le 6 mai 1931, alors que l'exposition coloniale internationale bat son plein. Au même moment, le navire Le Martinière, un vapeur, quitte le port de Saïgon avec le plus grand secret, avec embarqué dans ses cales 535 indigènes de 18 à 35 ans, enfermés dans des cages de fer, droit commun et politique mélangés, en direction de Cayenne, en Guyane. Si la conquête de l'Indochine avait provoqué des révoltes impitoyablement réprimées, celle de la fin des années 1930 marque l'irruption du nationalisme moderne, puis du communisme dans la lutte anticoloniale qui ultérieurement triomphera à Dien Bien Phu. Confrontés à des grèves, des manifestations, des soulèvements, des mutineries d'une ampleur inconnue, la répression est féroce, torture et exécution capitale à la chaîne. Au total, des milliers de morts et de prisonniers. Dans ce contexte, le projet de transformation par Le Martinière présente pour les autorités coloniales en place de très nombreux avantages. Désengorger les prisons, éloigner les fomenteurs de troubles, mettre à disposition une main-d'œuvre pour des colonies en mal de peuplement comme la Guyane. D'interviews en dépouillement de journaux et consultations d'archives, l'auteur a reconstitué la vie et le destin de ce demi-millier de bagnards annamites condamnés à défricher l'arrière-pays guyanais pour n'être libérés quand ils ont survécu que dans les années 1960. Le bagne des Annamites, les derniers déportés politiques en Guyane, de Christelle Debeban, c'est aux éditions Actes Sud. Cour Mirabeau, de Monique Wahl-Strauss, aux éditions Actes Sud. Pris dans la tourmente de la terrible année 1942, deux jeunes enfants nés dans une famille juive allemande exilée en France, séparés de leurs parents, tente d'échapper à la barbarie nazie. Dans un élan d'abord intime, Monique Wahl-Strauss raconte cette fuite. Elle a 6 ans et suit son frère Michel, de 2 ans son aîné, pour se retrouver en Suisse. Des étudiants du programme Baudelaire, sous la direction de Cécile Ladjali, ont échangé avec Monique Wahl-Strauss et l'ont accompagné dans l'établissement de ce texte pour témoigner, ainsi son travail de mémoire, d'abord écrit à son usage personnel, devient un document exceptionnel qui décrit la guerre à hauteur d'enfant. Préfacé par l'historien et académicien Pascal Horry, ce dialogue entre les cultures et les âges prend à l'aune de notre 21e siècle un sens tout particulier. Je précise que le programme Baudelaire a un double objectif: contribuer à la promotion de la culture française et de l'égalité des chances. Il met à disposition de 20 étudiants par an une formation interdisciplinaire et expérimentale à la littérature, alliant l'exigence d'un propos universitaire théorique à l'exploration pratique de l'écriture, des arts plastiques et de la mise en scène des étudiants, entre de plein pied dans la fabrique du texte littéraire et l'univers des œuvres. Les cours se déroulent à l'hôtel de Voguet, dans le 7e arrondissement de Paris, qui est un écrin d'un dialogue entre étudiants, professeurs et artistes invités. Le programme comprend 3 heures d'enseignement hebdomadaire d'octobre à juin, comme complément au cursus universitaire des étudiants. L'échange constant avec différentes institutions culturelles et d'enseignement partenaires offre aux étudiants une ouverture sur différents corps de métier impliqués dans la promotion de l'accès à la littérature. Cour Mirabeau, c'est signé Monique Wahl-Strauss et c'est publié aux éditions Actes Sud. Et pour terminer, Le disciple de Michael Ruby aux éditions Presse de la Cité. En septembre 1988, tout juste promu professeur de piano au prestigieux conservatoire de Moscou, Konstantin Toumanov accueille François, un jeune Français qui se révèle un authentique génie. Il le prépare pour le légendaire concours Tchaïkovski, où s'affrontent les meilleurs espoirs pianistiques du monde. Mais François, tourmenté et incontrôlable, s'émancipe avec violence des règles et des conventions. Rien ne se passe comme prévu. Qui est le maître? Qui est le disciple? Dans la confusion des sentiments nés d'une passion amoureuse libératrice et tragique qui fait écho au chaos de cette époque où le verrou saute, les portes s'ouvrent et l'on ne sait pas encore quelles vont aussitôt se refermer. Voici le premier roman de Michael Ruby, l'un des plus célèbres pianistes de sa génération, qui nous plonge dans la création artistique sur fond de perestroïka. Le disciple de Michael Ruby s'est publié aux éditions Presse de la Cité. Ainsi s'achève cette émission Historama. Nous allons nous séparer en chanson avec toujours Alain Chamfort, après avoir remercié Thomas qui a réalisé cette émission. Nous écoutons « Bon baiser d'ici ». C'est un extrait de l'album « Secret glacé » de 1983.
« Bon baiser de Russie, de vodka je t'écris, ces mots transis, ces mots d'ici, Ivanovna, je n'ai que toi. » Thank you.